Nous accueillons maintenant Jean au 39-21. Bonsoir Jean.
Bonsoir Monsieur Delacroix.
Bonsoir.
Je suis Jean. Alors je vous ai appelé il y a 15 jours je crois.
Oui.
Hein? C'est parce que j'avais un problème un peu avec mon fils cadet parce que il est allé un soir alors que mon épouse, voilà, je vous explique la situation. Le 28 décembre 2015, mon épouse, à 8h30 du matin, c'est-à-dire entre Noël et le Nouvel An 2016, a subitement eu des vertiges et des maux de tête et s'est révélée. On a appelé aussitôt SOS médecin et une ambulance et il s'est révélé que par les gestes que lui faisait faire le médecin, qu'elle avait plus ou moins un AVC, un accident vasculaire cérébral.
Mmh.
Et alors, immédiatement, comme le CHU est tout à côté de chez nous, l'ambulance est à côté de chez nous, et puis le médecin a dit qu'aux urgences, immédiatement, parce que vous savez, aux urgences, on peut vous laisser pendant une heure, et puis... hein, mais immédiatement faire à Madame Intel un scanner IRM du cerveau et de faire le nécessaire le plus vite possible, sans attendre. Et immédiatement, je l'ai accompagné avec un de mes fils, et là, il s'est révélé que c'était un AVC. Alors, ils ont fait... ils ont obturé... le sang qui les veines deux veines et immédiatement ils ont appelé la Fondation Rothschild à Paris, c'est-à-dire c'est une clinique privée qui est un centre neurologique, un des plus perfectionnés en France, et immédiatement, comme c'était week-end, il n'y avait pas grand monde pour faire une opération ici au centre universitaire de Caen, ils l'ont envoyé en hélicoptère sanitaire à Rothschild.
Oui.
Et immédiatement, elle a été opérée par 6 professeurs. Là-bas, vous voyez, le privé est quand même mieux que... Et ça, je le sais, parce que nous avons une des meilleures cliniques pour le cœur, ici à Caen, qui a, d'après le point, la 4e place en France. Parce que ma femme s'est fait aussi opérer après crise cardiaque à 25 ans. Elle a été opérée ici, mais c'était un très grand cardiologue. D'ailleurs, maintenant, il est cardiologue à l'hôpital Grasse-Kelly à Monaco. Et elle a été très bien opérée et ça marchait très bien. Seulement, voilà, il aurait fallu que... elle avait de l'hypertension et elle aurait dû ne plus fumer depuis ce temps-là. Et elle a continué à fumer, ça venait de là, en fait.
Elle fumait beaucoup ?
Comment ?
Elle fumait beaucoup ?
Ah oui, oui. Elle fumait même des petits cigares parfois, ce qui est incroyable. Et alors, ma femme est polonaise, ma femme. Vous savez, j'ai été attaché commercial dans différentes ambassades, dont en Pologne, justement, à l'ambassade de France. Je l'ai connue en Pologne. Et alors, en Pologne, il n'y a pas de médecine du temps du communisme, vous savez. Si vous n'aviez pas des dollars, tout était corruption, vous savez, dans ce pays-là. Hein, elle serait au cimetière depuis longtemps, en Pologne. Et à ce moment-là, j'ai donc elle a été très bien opérée du cœur, mais elle fumait beaucoup. Et surtout, elle avait des problèmes. On a eu des enfants très tard. En 86, mon fils est né, elle avait déjà 37 ans. Et le deuxième, elle avait 43 ans pour le fils cadet.
D'accord.
Vous vous rendez compte ? On s'y est pris très tard parce que travaillant dans les ambassades, vous savez, c'est pas marrant d'avoir des enfants avec soi à l'étranger, surtout quand il n'y a pas de lycée français ou comme dans les pays de l'Est. J'ai été à Varsovie, à l'ambassade de France à Moscou, à l'ambassade de France à Damas. C'était du temps du dictateur, du père de l'actuel dictateur. Et alors, les enfants, quoi. On peut éventuellement avoir encore une école primaire, surtout qui est faite dans les locaux de l'ambassade par un instituteur qui vient de France et encore. Donc, à ce moment-là, ce qui fait qu'elle est restée à la clinique là-bas, à la Fondation Rothschild à Paris. On l'a ramenée en hélicoptère sanitaire à Caen, elle est restée 2 mois. Mais ce qu'il y a, c'est que elle a toutes ses facultés, vous voyez, toutes ses facultés. Ce qu'il y a, la bêtise qu'elle a faite, c'est que 6 mois avant son AVC qui l'a conduit à subir cette opération pour l'AVC,
oui.
C'est que 6 mois avant, elle a eu un saignement de nez. Oh, je lui dis, alors immédiatement, on a appelé les pompiers sont à 1 kilomètre de chez nous, il y a tout de suite, on téléphone au 15, ils viennent avec un médecin, une infirmière, et alors ils lui proposent d'aller au CHU, aux urgences. Mais elle dit non, c'est pas grave, le nez qui saigne, ça arrive. Ça. Et alors, 3 mois avant, de nouveau, elle saigne du nez, alors on rappelle le 15, et tout de suite est arrivé l'ambulance et tout. Il lui propose de nous, mais non, c'est pas grave, tout ça, c'est le nez qui saigne. Et si elle avait accepté à ce moment-là, elle n'aurait jamais eu d'AVC, ce qui est arrivé avant la fin de l'année 2015, vous comprenez ?
Oui, oui.
Alors, ce qui fait que moi, je suis quand même déjà âgé, je vais avoir 81 ans dans 3 mois, et il est difficile pour moi d'être aidant, vous savez, moi-même, ce qui fait que je suis encore debout, si vous voulez, je peux encore être sur mes deux jambes. Mais, alors, heureusement, le fils cadet, parfois, bon, mais il faut comprendre, il est jeune, il faut qu'il se dépoule un peu, il faut que jeunesse se fasse, vous savez, moi, je sais ce que c'est. Mais alors, parfois, on ne s'entend pas très bien, parce que, vous savez, il y a un tel écart d'âge entre moi et le fils cadet, vous savez.
Mais il a quel âge, votre fils ?
Il a 28 ans.
Oui, d'accord.
Il a 81 ans, vous vous rendez compte. D'accord. Je suis grand-père, ou arrière-grand-père, plus ou moins. Avec le deuxième, ben, il est né plus tôt, donc il y a moins d'écart. Et lui, c'est tout à fait autre chose. C'est quelqu'un qui est calme, qui a eu son CAPES d'art plastique. Vous voyez, il a été reçu 20e sur 1000. c'est difficile, les concours, vous savez, dans l'enseignement. Vous savez, pour être professeur certifié de l'enseignement secondaire, c'est très difficile. Puis en plus, il fait beaucoup de bandes dessinées. Vous savez, il va... dans la région où on habite, dans la région qu'on appelle Caen-la-Mer, qui va jusqu'à Luc-Ouistreham, tout ça, quand il y a des dédicaces de bandes dessinées, bon ben, il y va. Mais alors, vous savez, un dessinateur de bandes dessinées, quand il fait une dédicace, c'est très compliqué, parce qu'en même temps, il fait un dessin, vous comprenez ? Ce qui fait que ça personnalise la bande dessinée, que l'acheteur reçoit.
Ah oui, d'accord.
Si vous voulez, un jour, vous enverrez les bandes dessinées.
Avec plaisir, avec plaisir. Oui. Mais donc, il est à la maison en ce moment, votre...
Oui, bah, il dort. Hein. Il dort la nuit, vous savez, parce que toute la journée... Et là, je crois qu'il est peut-être sorti chez une copine. Et comment je... oui, j'ai entendu un jour... moi, j'ai connu M. Jean-Luc Lagardère, vous savez.
Oui.
On était presque devenus pas amis, mais presque, parce que je lui ai servi d'interprète de russe-français quand M. Jean-Luc Lagardère faisait partie, vous savez, en 1900. J'ai commencé à travailler à la télévision en couleur, mais sur le plan technique. Je dirigeais le service de traduction interprétariat de russe français, français russe, pour une documentation énorme, parce que les soviétiques nous avaient acheté le système de télévision en couleur CECAM,
oui.
Avec le tube à gris, le tube plats et compagnie, on a inventé beaucoup de choses, nous, à l'époque.
Incroyable, incroyable.
Et alors, à ce moment-là, Jean-Luc Lagardère, avec les engins Matra, et avec Sylvain Foirard, qui dirigeait Europa, que j'ai bien connu aussi à l'époque. Alors, il y avait Sylvain Foirard, Jean-Luc Lagardère. Alors, l'État avait créé une société d'État, mais obligé des sociétés comme la Thomson CSF, les engins Matra, tout ce qui rentrait dans le tube, et puis Henri de France, qui était le très grand, qui travaillait aux engins Matra, qui a inventé des radars les plus perfectionnés au monde, tout ça, travaillait dans les satellites, les missiles, tout ça, c'était un type qui avait que son certificat d'études. Et alors, je peux vous donner la date de naissance de Arnaud Lagardère, qui est votre patron.
Exactement.
Parce que un jour, avec Jean-Luc Lagardère, il me dit bon ben, on se donne rendez-vous parce qu'on devait aller à l'ambassade, à la direction, comment ils appelaient ça, à l'ambassade soviétique, à la direction commerciale de l'ambassade soviétique. Alors c'était rue de Grenelle, je me souviens. Et ils me disent, je crois que c'était en 67 ou en 68. Ou en 67, parce qu'après, j'accompagnerai souvent M. Lagardère à Moscou, parce que pour signer les contrats et tout ça, et puis moi, je servais d'interprète. Et il dit, j'ai une bonne nouvelle, M. Lejnik, j'ai mon fils qui vient de naître.
Ah, c'est incroyable, oui, ça remonte à combien de temps, ça, maintenant?
C'était en 67, 1967. J'avais terminé mes études ma licence de russe et ma licence de polonais à la Sorbonne, et puis mon diplôme de russe et de polonais à l'école des langues orientales.
Vous parliez russe, polonais, tout ça.
Couramment, je suis d'origine polonaise. D'accord. J'ai appris le français qu'à partir de l'âge de 9 ans, je parlais pas un mot de français.
Ah,
jusqu'à 9 ans, je parlais pas un mot de français.
Incroyable. Et vous avez bien gardé tout ça, vous parlez toujours couramment?
Couramment, je lis couramment le russe, je peux vous réciter des poèmes en russe.
Ah ouais,
le soir, pour bien m'endormir, souvent j'écoute votre Madame Gomez, là, qui a une émission l'après-midi avec Mehdi, là, son médecin.
Oui, 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 oui.
Et alors passe Monsieur Le Joyeux, là. Il a écrit, je crois, je ne sais pas, parce que j'écoute aussi beaucoup cette émission, Le Joyeux, qui est un psychiatre, et qui a écrit un livre sur les quatre temps de la Renaissance, ou la Renaissance des quatre temps. Et alors, justement, il dit, récitez-vous des poèmes, des choses comme ça. Alors, je me récite des poèmes en russe, en polonais, en anglais. Je parle quatre langues couramment, et alors, ça me facilite facilement.
Vous avez eu une vie tout de même passionnante, j'ai l'impression, quand même.
Comment ?
Vous avez eu une vie passionnante entre...
Oui,
le...
je suis même devenu un des copains de Jean-Paul II.
Ah oui ?
Oui, parce que...
J'étais polonais.
J'étais le seul étudiant en polonais à la Sorbonne. Et alors, à la Sorbonne, le directeur de l'Institut polonais était le conseiller et le traducteur du général de Gaulle pour tout ce qui concernait la Pologne, quoi. Et alors... et puis j'ai eu pour professeur de polonais quelqu'un qui va devenir un personnage historique en Pologne. C'est M. Bronisław Geremek. Il était attaché culturel à l'ambassade de France, à l'ambassade de Pologne à Paris. Et alors je l'ai eu d'octobre 64 à juin 66. Comme professeur d'histoire. Alors on faisait nos cours, pas à la Sorbonne, on le faisait dans le café où il y a tous les cinémas, vous savez, parce que lui, il buvait son verre de vin. Et alors, il est devenu un très grand médiéviste, il faisait sa thèse sur les indigents avec Brodel et Jacques Le Goff, des grands historiens, vous savez, des médiévistes.
D'accord.
Et alors, c'est quelqu'un d'extraordinaire, car quand j'étais à l'ambassade de France à Varsovie, on s'est retrouvés. Et je le voyais souvent, il était à ce moment directeur de l'Institut du Moyen-Âge à l'Université de Varsovie. Et alors, on sortait beaucoup ensemble, il m'invitait au club, parce qu'au club qui était très fermé, qui était réservé qu'aux professeurs, tout ça. Et puis surtout que pendant que j'étais étudiant en polonais, ils avaient souvent besoin d'un interprète. J'ai habité la résidence universitaire Jean Zé à Antony. Vous voyez où se trouve Jean Zé à Antony?
Non, je ne vois pas trop.
Ça a été détruit depuis.
Ah bon?
C'est face au parc de Sceaux, quand on va à Versailles. Quand on va vers le petit Clamart, Châtenay-Malabry, tout
oui,
ça.
Oui, d'accord.
Et alors là, il y avait... C'était une ville dans une ville, on était 3000 étudiants, et à ce moment-là, il y avait Jospin qui était étudiant là. Il y avait Hyssen Abré, le kidnappeur de François Claustre, vous savez.
Oui.
Il y avait le futur Premier ministre d'Algérie, parce que le général de Gaulle, quand il a décolonisé, il a fait venir beaucoup d'étudiants de tous ces pays pour leur former des cadres et qui rentrent chez eux pour diriger leur pays, quoi. La plupart ne sont jamais rentrés, d'ailleurs, ils sont restés en France. Et alors, ils sont... Et Philippe Seguin était devenu mon copain parce que, comme je suis pupille de la nation orpheline de guerre, j'ai perdu mon père à l'âge de 4 ans et 4 mois. Mon père était dans la résistance au débarquement ici sur les plages du Calvados. Il a été tué dans la nuit du 6 juin 44. Je n'oublierai jamais ça, sûrement.
Ça vous émeut encore beaucoup?
Ah oui,
oui.
Il y a que du passé. Surtout que c'est un type formidable. C'est un cavalier. Il avait été lui-même orphelin à 4 ans parce que son père, c'est-à-dire mon grand-père paternel, était sacristain et avait été tué par des Ukrainiens orthodoxes parce que mes parents habitaient la partie orientale de la Pologne, le Lwów, qui a été ensuite intégré en 1944 à Potsdam. On a donné la partie la plus riche sur le plan agricole aux soviétiques, vous savez. Mm-hmm. Staline, c'est le général Anders qui voulait interdire, qui disait à Churchill, si vous laissez les Russes traverser la Pologne, là où ils seront, ils ne nous libéreront pas, mais ils nous occuperont. Churchill n'a rien voulu savoir. Mais alors que mes 300 000 soldats rentrent de Sibérie, parce qu'il y a eu Katyn, parmi les officiers, dont le père d'Andrzej Wajda, qui a été fusillé. Alors j'ai connu tous ces cinéastes, tous ces grands sportifs, champions olympiques, des vedettes du grand ballet national polonais. Et parce que comme j'étais le seul à parler le polonais, ils avaient mon professeur Bronisław Geremek. Alors quand est né Solidarność, le fameux syndicat, tout de suite, encore avant, il était en France. Il me dit, j'ai besoin de toi, si tu pouvais être interprète, ceci, cela. Alors, d'aller à fond romeux avec les sportifs polonais qui vont s'entraîner avec les Français pour le ballet national polonais, pour tel écrivain polonais, tout ça. Alors, j'allais partout, ce qui fait que je connaissais tous les personnalités polonaises importantes. Et alors, quand j'avais beaucoup de bourses, qui m'était accordé tant par la France que par la Pologne pour faire des stages linguistiques dans beaucoup d'universités polonaises. Alors, en 64, parce qu'en 63, j'ai eu une bourse pour l'université à Moscou, Lomonosov, où il n'y avait pas un seul fils d'ouvrier, c'était que des enfants de notables russes, vous savez, de l'oligarchie. Et alors, en 64, on m'envoie en Pologne à Lublin. Et à Lublin, il m'envoie d'abord à l'université Marie Skłodowska-Curie, et puis, il y a, à ce moment-là, je ne sais pas si j'étais pas surveillé en Pologne, mais en Moscou aussi, mais en Pologne, j'étais surveillé par quelqu'un de bien. C'était quelqu'un qui avait échappé à Katyn, vous savez, qui était aristocrate, officier pendant la guerre, et qui s'est mis du côté des Allemands, parce que jamais, on a dit toujours que c'était les Allemands qui avaient fait Katyn, mais c'était pas vrai. Et vous savez pourquoi Brasillach a été fusillé?
Non.
Et que De Gaulle ne lui a pas accordé la grâce?
Non, dites-moi.
Parce que Brasillach a été le seul qui a dit, parce que vous savez, au procès des nazis à Nuremberg, les Polonais ont dit « Les Soviétiques sont des assassins, ils ont éliminé 15 000 de nos officiers à Katyn. » Alors on a dit aux Polonais « Fermez votre gueule, vous voyez. Hein, ne parlons pas de ça, les Russes ont eu Stalingrad. » Et Brasillach a donné raison parce qu'il était un des premiers à savoir que c'était les Russes qui avaient fusillé. Et alors, c'est pas tellement ses écrits antisémites, mais c'était le fait qu'il avait dévoilé que c'était les Russes qui avaient... Alors les Russes ne pouvaient pas... Et Brasillach qui était anticommuniste et tout, alors là...
Oui, d'ailleurs, revenons à ces... À ses études. Revenons à ses études, Jean de et vous disiez que vous étiez sûrement surveillé parce que
on oui, je pensais que la Pologne c'était comme l'Union soviétique, mais pas du tout, pas du tout. Un jour me contacte quelqu'un qui me dit j'ai échappé à Katyn, je suis aristocrate, j'ai fait la cavalerie polonaise des Uhlans comme mon père c'était 3 ans de service militaire en Pologne avant la guerre, il avait fait la parce qu'il avait été recueilli comme orphelin par une riche comtesse qui n'avait pas d'héritier et elle avait des chevaux de course, des chevaux de promenade et alors il était rentré, ses 3 ans de service militaire avant la Deuxième Guerre mondiale, il les avait faits dans la cavalerie polonaise des Uhlans. Vous savez, la cavalerie polonaise des Uhlans, c'est la fameuse armée polonaise qui a fait toutes les guerres napoléoniennes depuis l'Espagne jusqu'au Kremlin, vous savez.
Oui.
Et alors, à ce moment-là, il me dit, parce qu'il me tutoyait, il m'a dit, tu sais que la Pologne... Il y a une université catholique en Pologne. Je dis quoi ? En pays communiste, une université catholique ? Il me dit oui, oui, il y a une université catholique, mais qui ne forme pas seulement des prêtres ou des bonnes sœurs, mais qui forme aussi des gens en langue russe, en langue polonaise, en littérature, tout. Et alors il me dit, et là-bas tu seras même mieux logé qu'à l'université d'État. Où on est 4 par chambre, là tu auras une chambre à toi. Et puis vient un type extraordinaire qui s'appelle Karol Wojtyla, qui est archevêque cardinal de. Il vient une fois par semaine, il vient de Cracovie.
Oui.
La Pologne
était très catholique quand même à l'époque.
Ah, très catholique. Oh, la Pologne, vous savez, c'est le contraire. Vous savez ce qui se passe actuellement en Pologne. L'avortement est même interdit aux femmes qui ont un fœtus qui a des défauts. Vous vous rendez compte?
Oui.
Où ils en sont? Ah oui, les églises sont pleines, pleines à craquer. Pendant tout le pontificat de Jean-Paul II, 3000 prêtres sortaient des séminaires en Pologne. Ils ne savaient pas quoi faire des curés, tellement il y en a. Il y en a partout. Alors qu'ici, dans la région de Caen où j'habite, on a un prêtre pour 11 paroisses. Et encore... Celui qui vient d'être nommé vient du Rwanda. Du Rwanda, vous voyez, il vient d'Afrique.
Voilà. D'accord, d'accord.
Alors, ils sont très... Alors, à ce moment-là, je rentre à l'université catholique et cette université, les diplômes délivrés par l'université catholique de Lublin sont reconnus par l'État et même ont plus de valeur pour l'État que ceux délivrés par les universités d'État. Et alors là, le mercredi soir, vient un type, un jeune archevêque cardinal, et puis le matin, il joue au football avec des jeunes, alors moi je joue au football, tout ça, et puis le midi, on mange tous ensemble, l'après-midi, il donne quelques cours de théologie, et alors comme j'avais fait, je m'intéressais beaucoup à la phénoménologie de Durkheim, vous savez, un philosophe allemand, il m'a dit, mais c'est intéressant, parce que il s'était intéressé à ça. Mais il me dit, vous êtes polonais, mais vous parlez parfaitement le polonais, où est-ce que vous avez appris? Bah, je suis polonais par mon nom. Parce qu'il me dit, mais dites donc, moi je suis allé, il me dit, moi je suis allé en France, je suis allé à Lisieux, qui me dit, oh, je dis, ma mère habite à 40 km de Lisieux, je suis allé à Lourdes, et tout ça. Et alors l'après-midi, il faisait un peu de cours, mais alors, ce qu'il faisait surtout, il récitait des poèmes de sa composition, il mettait en scène une pièce de théâtre qu'il avait écrite, c'était incroyable. Et alors, à un moment, il me dit, bon, vous savez, est-ce que vous n'auriez pas un prêtre polonais dans l'une de vos paroisses? Parce qu'il y a beaucoup de Polonais là où j'habite, près de Caen. Ont beaucoup émigré entre les deux guerres mondiales, beaucoup de Russes, de Polonais, ensuite beaucoup d'Espagnols, vous savez qu'on fuit le franquisme, beaucoup d'Italiens, tout ça parce qu'il y avait une grosse société métallurgique qui employait jusqu'à 8000 personnes et avec beaucoup de mines de fer un peu dans le Calvados. Et alors tous ces gens-là étaient mineurs, métallurgiques, et ça marchait en poste continu. Et puis, et alors il me dit, il y a sûrement un prêtre polonais que je connais, qui me dit, comment ça? Ben, je dis, oui, il y a un curé polonais, je lui donne même le nom. Mais il dit, c'est mon ami, comment ça? Alors il me dit, ben, pendant la guerre, nous avons fait ensemble nos études pour devenir prêtre clandestinement. Et dans la journée, on cassait des cailloux. Et alors, à ce moment-là, il m'a dit, mais... il me dit comme ça, mais... Vous savez, la vie est très dure. Alors, ben, je dis, ma mère fréquente ce prêtre, il s'appelle Zions. En français, c'est le lièvre. Et alors, il me dit, mais je le connais très bien, parce qu'après la guerre, tous les deux, nous sommes partis à Rome faire notre doctorat en théologie. Moi, je suis rentré à Cracovie, il me raconte toute sa vie. Et puis lui, il est allé du côté de Caen, qui me dit, ben, je dis, oui, il y a plein de Polonais, on appelle ça le plateau. C'est là que j'ai connu Michel Hidalgo, Serge Hidalgo, tout ça.
C'est incroyable, c'est
des footballeurs.
Je vous écouterai des heures, Jean, vraiment, parce que c'est incroyable le nombre de personnes que vous avez croisées. Et
oui.
vous êtes dans quelle région aujourd'hui? Vous êtes à Paris ou vous êtes...
Je suis à 15 minutes du centre-ville de Caen.
Ah oui, de Caen, d'accord. Donc, vous êtes,
je pourrais vous raconter, j'ai beaucoup de résilience et je suis très résistant parce qu'à 9 mois, mes parents et moi, nous sommes déportés au camp de concentration de la Motte-Beuvron en Sologne parce que beaucoup de Polonais qui avaient émigré de cette région de Pologne, pour la plupart étaient juifs. C'est le cas de Boris Cyrulnik, vous savez, le neuropsychiatre.
Oui, complètement.
Il est de la même région que mes parents.
D'accord. Et vous avez été...
ses parents étant juifs ont été déportés à Auschwitz.
D'accord. Et en fait, les Polonais, donc juifs, ont été déportés en Sologne, vous me dites.
Oui, moi, qui ai à ce moment-là 9 mois, et mes parents nous sont déportés. Je passerai 18 mois en camp de concentration et j'en sortirai pratiquement mourant.
À quel âge aviez-vous?
J'ai 81 ans bientôt.
Oui, mais là, à cette époque, vous aviez quel âge?
Ben, j'ai 9 mois quand on me déporte avec mes parents dans des wagons à bestiaux. C'est bien avant de Drancy, tout ça. Ils ont commencé par parce qu'il y avait beaucoup de Polonais. Ils pensaient que tous les Polonais étaient de confession juive, vous comprenez. Et alors, ils nous ont déportés là-bas. Et puis, alors, ce qui était terrible, c'est qu'il n'y avait aucune médecine. Et puis, je suis sorti, il y avait le médecin de... D'ailleurs, j'ai toutes les archives me concernant par le groupe d'historiens qui s'est occupé. C'est M. Bronislav Guéremec, à propos, justement, ce fameux Carole Wojtyla, parce que tout le monde l'appelait Carolouche, petit Carole. On se tutoyait tous là-bas à l'Université catholique de Lublin. Encore tutoyait l'archevêque cardinal. Alors il me dit, est-ce que vous étiez petit, est-ce que vous avez été enfant de cœur? Je dis oui, de 7 à 12 ans. Bon, et ben, alors là, il commence à dire, vous avez un père et une mère? Je dis non. J'ai perdu mon père à la guerre, il faisait de la résistance, il a été tué le premier jour du débarquement. Ah bon? Et alors, lui, à ce moment-là, il avait une larme à l'œil parce qu'il me dit, vous savez, moi, j'ai perdu ma mère à l'âge que vous aviez. Il avait perdu sa mère. Et alors, il me dit, est-ce qu'il a une tombe, votre père ? Ben, je dis, il était enterré dans un carré militaire, dans un cimetière civil au bord de la mer. Et puis après, l'Office national des anciens combattants a fait exhumer le corps et on l'a enterré. Là, on est près de Caen, où on est arrivé en France. Et donc, je vais vous donner un peu de terre, je vais la bénir, vous donnerez ça à votre mère et qu'elle mette ça sur la tombe de son mari, c'est-à-dire de votre papa. Alors j'arrive chez ma mère avec ce...
On a plus que 3 minutes, mon cher Jean, hein, parce oui, que j'ai encore une
alors,
personne.
J'apporte la terre à ma mère et ma mère me dit, tu sais, c'est un archevêque cardinal qui m'a donné ça, faudra que tu mettes ça sur la tombe de papa. Et je lui dis, mais tu sais, il est formidable, il joue au football, il fait du théâtre et tout. Mais il n'est pas sérieux, ce type, parce que quand j'étais enfant de cœur, qu'elle me dit, Monseigneur Jacquemin, évêque de Bayeux-Lisieux, il était sérieux. Ah, mais et rendez-vous compte, quand il sera élu, le prêtre de la, qui a fait ses études avec lui à Varsovie nous emmènera tous en bus. Chez Jean-Paul II, il dit, c'est mon copain qui vient d'être élu cardinal.
Ouais,
et je vais vous donner un tuyau. On a dit que c'était les loups gris, les Turcs qui voulaient l'éliminer, un espèce d'éliminer. C'est le KGB qui a voulu l'éliminer. On ne veut pas le dire, mais parce que Jean-Paul II ne voulait pas que la Pologne, qui avait déjà beaucoup d'ennuis à l'époque avec... Solidarité. Et Bronisław Geremek, dès que Solidarité a été créée, il est devenu le principal conseiller de Lech Walesa. Il est devenu à ce moment-là président du groupe Solidarité. Et à ce moment-là, j'ai entendu une chanson d'Elton John, là que vous passiez.
Oui.
Elton John est venu quand la Pologne est devenue démocratique. Il est venu à Gdansk donner un grand concert pour les ouvriers.
Il en aura vu aussi, cet Elton John, mais j'ai l'impression que vous, dans votre vie, je pourrais vous écouter toute la soirée, mon cher Jean. Merci, merci mille fois pour tout ça.
Mais je pourrais vous envoyer, par exemple, des livres d'histoire où on parle de moi avec des archives, où mon père a été interné parce qu'on s'est enfui à un moment. Alors c'était grave, c'était Auschwitz.
Oui,
c'était...
alors vous me raconterez ça la prochaine fois parce que j'ai Daniel qui attend depuis
20 minutes. Oui, ça m'a fait plaisir de vous avoir
moi aussi Jean, merci mille fois, c'était vraiment très intéressant. Et puis n'hésitez pas à me rappeler hein, quand vous avez un moment.
Oui.
D'accord.
Le problème c'était que j'ai perdu un ami d'un AVC qui avait mon âge et qui habitait à 2 maisons de chez moi et qui lui n'a pas eu de chance parce qu'il avait une maison de campagne dans la Manche. Et puis, il n'y avait pas de médecin à proximité. Ils l'ont ramené ici au CHU et dans l'hélicoptère qu'il a ramené de Cherbourg au CHU de Caen, il est mort. Et on se fréquentait beaucoup depuis 25 ans, puis malheureusement.
Bon, mais vous devez avoir encore beaucoup d'amis quand même, non ?
Ben, beaucoup sont morts. Mmh. J'en ai encore 2 qui sont devenus des ambassadeurs, mais ils sont gâteux, ils sont Alzheimer, alors...
Bon, en tout cas, vous, vous portez merveilleusement bien et je m'en félicite. Alors, passez une bonne nuit, mon cher Jean.
J'aime bien votre voix. Comme j'aime bien la voix de Boris Cyrulnik, autrefois, il passait souvent sur France Inter.
Oui.
C'est un type qui a eu du courage, ce type-là. Les parents déportés. Alors, Bronisław Geremek, son père était grand rabbin de Varsovie. Et dans le ghetto de Varsovie, lui et sa mère se sont échappés du ghetto, mais son père a été
pris par les
exterminé
Allemands.
À Auschwitz.
Merci Jean. Je suis obligé de vous quitter malheureusement.
À une prochaine fois.
Avec grand plaisir, à une prochaine fois mon cher Jean.
Merci.
Portez-vous bien, au revoir.
Merci,
et courage pour votre femme,
à vous
surtout.
Aussi.
Au revoir.
Oui, ma femme, ce qu'il y a, c'est qu'elle devait aller au mois de mars... en centre de rééducation, ici à Caen, mais seulement avec le Covid,
ça va reporter un petit peu.
Elle est bloquée, il n'y a pas intérêt à aller dans un centre maintenant ou dans un hôpital. Et puis, moi, j'ai fait depuis le mois de mars, j'ai fait 3 tests et je suis négatif. Mais j'aimerais, comme je suis asymptomatique, j'aimerais être positif parce qu'il paraît à ce moment-là, on a des anticorps.
Exactement.
C'est vrai, ça.
Oui, c'est vrai, oui.
Bah, il vaut mieux être positif à ce moment-là.
Oui, enfin, il vaut mieux être positif, mais c'est pile ou face, parce que
si on est positif, c'est qu'on... Mais je ne tousse pas, je n'ai pas de rhume, j'ai pas de maux de tête, j'ai rien de tout ça.
D'accord, bah, vous avez de la chance, dites-vous
bah,
bien
oui.
ça.
Hein bah, bon, passez... Bah oui, parce que... Mais vous savez, la France est un beau pays. C'est le plus beau pays au monde.
Exactement.
J'ai vu beaucoup de pays, mais socialement, sur tous les plans, c'est magnifique.
Mais on le dit souvent, on le dit souvent aussi.
Mais 68, j'ai jamais compris. Moi qui étais fils d'ouvrier, ma mère a été pendant 2-3 ans femme de ferme, parce que les Polonais travaillaient très dur dans les mines, tout ça, qui étaient devenus des grands footballeurs. J'ai connu Kopa, toute la grande équipe de Pologne en 58 avec Wisniewski. Et alors, tous ces gens, moi, j'ai jamais compris ces gens qui, en 68, ils faisaient une révolution contre les libertés, comment ils appelaient, les libertés bourgeoises et la société de consommation. En Pologne, on aurait bien aimé avoir, ou en Russie, la liberté de la société de consommation et les libertés bourgeoises. Ça, ils l'auraient bien voulu, ils me le disaient tous là-bas.
Bon, je vous souhaite une bonne nuit, mon cher Jean, d'accord ?
À vous aussi,
à
monsieur
bientôt.
Olivier.
À bientôt, Jean.
Parce que vous travaillez très tard, je m'aperçois parfois,
oui.
Comme je suis insomniaque, moi.
Oui.
Alors, j'écoute ou bien je lis de toute façon, mais je vous écoute jusqu'à 3 heures du matin, à peu près.
Alors ça, c'est des rediffusions à partir d'une heure, hein, parfois.
Mais, oui.
Je dors un peu quand même, à un moment.
Et puis, vous avez fait un truc à la télé il n'y a pas longtemps.
Oui, puis il y en a un autre la semaine prochaine, mercredi prochain. Donc, sur la
5. Ça sera sur quelle chaîne ?
Sur la 5 à 20h30.
Oui, parce que là, je viens de voir entre 11h et minuit moins le quart un truc extraordinaire sur 1900, de George Orwell,
oui.
1984. Vous savez qu'il était communiste, ce type-là. Hein.
Non,
il a fait la guerre d'Espagne.
Mm-hmm.
Et là-bas, il a vu comment se comportaient les communistes staliniens qui tuaient les anarchistes, les trotskistes, tout ça. Alors, c'est là qu'il a compris tout le système totalitaire.
Il faudra qu'on se prenne un café un jour et que vous me racontiez tout ça, d'accord ?
Ah oui, je pourrais ça.
Bon. Bah, écoutez, je ne vous souhaite pas de bien dormir tout de suite, mais en tout cas, passez une bonne nuit.
Mais moi, j'ai des bons souvenirs, surtout avec Jean-Luc Lagardère. Vous savez qu'il est enterré à 15 km de Caen, Jean-Luc Lagardère.
Il a
une grosse écurie. Il avait, je ne sais pas si son fils l'a gardé, une grosse écurie de course. Parce que c'est sa première femme qui l'a initié au cheval, mmh. Et il a près de Falaise, là, à 15 km de Caen, une très grosse écurie de course.
D'accord.
Et il a un tombeau, c'est un mausolée.
D'accord. Bon, D'ailleurs, mon cher Jean, je suis obligé de prendre Daniel qui attend depuis 20 minutes, je suis désolé.
Ben,
je suis obligé de raccrocher.
Ce sera pour une prochaine
fois.
Au revoir.
Oui, avec grand plaisir. Au revoir, Jean.
Au revoir.